Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Et ce soir, donc, nous voyons la deuxième partie du chapitre 7. Et donc on va voir les étages spécifiques radio. Après avoir vu la semaine dernière les amplificateurs radiofréquences, donc on va voir d'autres étages autres que des amplificateurs dont on a parlé la semaine dernière. Donc premier étage qui va nous intéresser, qui est spécifique à la radio, encore une fois, ce sont les oscillateurs. Alors, un oscillateur, c'est en fait un circuit qui va vous générer des signaux périodiques. Alors, périodique, ça veut dire tout et n'importe quoi, hein, soit du signal carré, du triangle, du dent de scie, et évidemment aussi du sinusoïdal. Et c'est en particulier ce signal-là, sinusoïdal, qui va nous intéresser dans le monde de la radio, parce que dès qu'on a une autre forme de signal, ça, c'est M. Fourier qui nous l'a démontré, on est certain d'avoir plusieurs fréquences à la sortie de notre générateur. Et ce sont donc des fréquences qui sont harmoniques. Donc, un signal sinusoïdal pur n'a qu'une fréquence, et si on sort de ce cas de figure, si on a du signal carré, du signal triangle, du signal dans le si, tout ce qu'on veut, automatiquement, on va avoir, alors peut-être pas une infinité, mais enfin un grand nombre de fréquences harmoniques entre elles qui sont générées par l'oscillateur, et c'est pas vraiment ce que l'on recherche dans le monde de la radio. Et évidemment, c'est bête à dire, mais tant qu'à faire, la fréquence qui est générée par l'oscillateur, bah, c'est une fréquence qui est calculée, tout au moins qu'on veut, c'est une fréquence particulière que l'on veut générer, c'est pas n'importe quoi. Il y a plusieurs types d'oscillateurs, il y a deux grandes familles, il y a les familles d'oscillateurs à fréquence fixe, et donc en règle générale, mais c'est pas toujours le cas. Quand on parle de fréquence fixe, derrière, on parle de quartz. On va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un quartz. Et dans ce cas-là, quand ce sont des quartz, on va appeler ça un VXO. Alors, ça c'est un terme anglais. Quand on voit un X, en anglais, X, ça veut... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous écrivez Merry Christmas, de manière abrégée, vous écrivez Merry Xmas. Hein. Donc le X, c'est Christ. Et donc le X, là, c'est le cristal, puisque le quartz est un cristal, et que les anglo-saxons ne parlent pas de quartz, mais de cristal. Le quartz est un cristal un peu particulier, mais c'est un cristal. Et donc c'est un oscillateur commandé par quartz. VXO, le terme VXO, voilà d'où il vient. Et puis, d'autre part, on a aussi, parce que ce qui va peut-être nous intéresser, c'est qu'on veut écouter une bande complète, donc on veut faire varier la fréquence de réception, et donc on va être obligé de faire varier les fréquences des différents oscillateurs, enfin tout au moins d'un oscillateur. On verra ça quand on fera les synoptiques. Et donc pour faire varier la fréquence d'un oscillateur, bah, y a plusieurs méthodes. Première méthode, c'est tout simplement le condensateur variable. Donc c'est une commande, je dirais, mécanique, c'est-à-dire que le bouton de commande de fréquence, bah, derrière, vous mettez derrière l'axe, avec peut-être un démultiplicateur, mais vous mettez un VFO, un condensateur variable, donc voilà, il bouge de 180 degrés, c'est tout. Mais avec ça, ça vous permet comme ça de faire varier votre fréquence. Et donc dans ce cas-là, ça s'appelle un VFO, oscillateur à fréquence variable. Hein, c'est en anglais, donc tout est à l'envers. Deuxième méthode, donc ça c'est une commande mécanique. Donc voilà, vous avez l'axe de votre CV qui est relié directement à votre bouton sur lequel vous avez mis un démultiplicateur et sur lequel vous allez changer la fréquence. Deuxième méthode, c'est avec une de manière électronique, je dirais, et plus précisément en faisant varier la tension aux bornes d'une varicap. On avait évoqué un petit peu ce système-là quand on avait vu les diodes varicap. Enfin, je rappelle, une varicap, c'est une diode qui est donc montée à l'envers et qui a les caractéristiques. Une caractéristique principale, c'est que sa capacité va varier, hein, puisque sa barrière de potentiel va varier en fonction de la tension inverse que l'on met à ses bornes. Et plus la tension inverse est importante, plus la barrière de potentiel est importante, et donc plus la capacité de la diode est faible, puisque j'ai augmenté l'épaisseur du diélectrique. La barrière de potentiel est quelque chose de d'isolant, et donc fait l'office de diélectrique. Donc voilà, ça c'est dans le cas où on veut faire varier la fréquence à l'aide d'une varicap. Alors tout simplement derrière, on met un potentiomètre variable, et par exemple, et donc on fait varier la fréquence par l'intermédiaire d'un potentiomètre, et donc par l'intermédiaire d'une variation de tension, d'alimentation de ma varicap. Et puis on a des systèmes un peu plus évolués, donc c'est des fréquences qui sont commandées électroniquement, soit ce qu'on appelle des synthétiseurs, alors plus précisément ce sont des PLL, on va voir tous ces systèmes-là, il n'y a pas de... soyez pas trop impatients. Donc un PLL, donc c'est une boucle à verrouillage de phase, hein, phase lock loop, donc boucle à verrouillage, lock verrouillage et phase phase, donc PLL, ou alors des traitements numériques de signal, et donc dans ce cas-là c'est le DDS, donc le Direct Display Synthesis. Donc c'est une synthèse directe numérique. On va voir encore une fois tous ces systèmes-là. Ce qui est important, c'est que pour mesurer finalement la fréquence générée par le quartz, on va utiliser tout simplement un fréquence-mètre. Et comment va fonctionner un fréquence-mètre ? Alors c'est là que je ne savais pas trop où mettre cet instrument de mesure, donc je l'ai collé au moment où on parle des oscillateurs. Et donc c'est un des derniers instruments dont on va parler, puisqu'on a déjà parlé de l'oscilloscope et de l'analyseur de spectre. C'était le dernier instrument de mesure qu'il me restait à caser, et le fréquence-mètre, donc ça mesure la fréquence d'un signal, tout simplement en comptant le nombre de périodes pendant une durée de référence. Alors la durée de référence, elle peut être une seconde, voire 10 secondes, ou au contraire, une milliseconde. Mais ce qui est important, c'est que comme je compte finalement une période, et je compte les périodes complètes, c'est-à-dire les pics, je ne peux pas compter des demi-périodes. Et donc plus j'utilise une période de référence qui est longue, plus je vais avoir de finesse dans le calcul de ma fréquence. Hein, c'est-à-dire que si je mesure pendant 10 secondes, alors évidemment l'affichage il va mettre 10 secondes à s'afficher automatiquement, en revanche j'aurai en précision le dixième de Hertz. Est-ce que ça m'est utile? J'en suis pas certain. Mais si vous redescendez à la seconde, vous avez donc votre affichage dont la précision est du Hertz. Et si vous êtes à un dixième de seconde, donc l'afficheur se rafraîchit plus vite, évidemment, mais dans ce cas-là, bah, vous avez une précision au mieux de 10 Hz. Voilà. Et évidemment, ce qui va déterminer la précision de mesure, c'est la précision de la durée de référence. Parce que si c'est si votre durée de référence c'est une seconde, mais plus ou moins 20 dixièmes en plus ou en moins, eh bien c'est donc 20 Hz en plus ou en moins que vous allez avoir sur en affichage de votre fréquence mètre. Voilà, tout simplement. Donc voilà tout simplement comment fonctionne un fréquence mètre, c'est tout simplement un compteur. Donc c'est assez bestial comme truc, et si bien que, alors c'est pour ça qu'on préfère utiliser des signaux qui sont vraiment sinusoïdaux, parce que si vous avez un signal un peu composite, en fait ça va compter les crêtes, et si vous avez un signal un peu bizarroïde, qui n'est pas sinusoïdal, et ben votre fréquence mètre va vous indiquer n'importe quoi. Voilà, donc ayez bien ça en tête quand on parle du fréquence mètre. Ce qui est important, c'est pas trop le nombre de digits qui est affiché, c'est surtout la stabilité de la durée de référence de calcul du fréquence mètre. Et on en arrive au quartz. Donc, puisqu'on va commencer par les oscillateurs à quartz, et donc on va commencer à parler du quartz. Alors le quartz, c'est du cristal, c'est un cristal de roche. Et le cristal de roche, voilà, sous cette forme, vous avez sûrement dû les voir dans des magasins spécialisés en pierre. Voilà, donc voilà, c'est en état naturel, en fait, c'est des cristaux de silice. Donc silice, c'est le sable, hein, je vous rappelle. Donc voilà, ce sont des cristaux de silice. Et alors évidemment, il faut qu'ils soient le plus pur possible pour faire du quartz. Donc ils ont plutôt une forme un peu en forme de prisme, comme ça. Hein, la forme ici, qui est bien indiquée ici. Et donc ces quartz-là, ils vont être taillés. Alors il y a plusieurs axes. Le quartz a plusieurs axes, hein, soit dans les pointes ou de côté, donc au milieu du côté ou sur ici l'arête. Hein, donc il y a trois axes et les quartz vont être taillés, vraiment taillés. Voilà, il y a plusieurs tailles du quartz. Donc il y a soit la taille X, soit la taille AT, donc il y a, c'est sur l'axe Y ici, et puis il y a les autres quartz ici. Et donc selon que l'on coupe dans un sens ou dans l'autre, le quartz n'a pas exactement les mêmes propriétés. Alors, à la limite, on s'en fout un petit peu, nous, parce qu'une fois que le quartz est taillé, bah voilà, on n'a plus rien à faire. Ceux qui veulent un peu peaufiner, et peut-être récupérer du matériel ancien, voilà. Après, selon la coupe, on va avoir des caractéristiques un peu différentes l'une de l'autre. Je reviens, je dézoome. Donc ici, je vous ai mis ici des quartz que j'ai récupérés sur Internet. J'en ai d'autres ici dans ma belle boîte. Donc le quartz, c'est du cristal, donc qui existe sous forme naturelle, sous forme de cristaux de silice. Et donc le quartz en lui-même, quand on parle du composant quartz, en fait c'est quoi? C'est deux lames de condensateur que l'on a ici, et à l'intérieur, qui servent de diélectrique, finalement, coincé entre mes deux lames, j'ai une lamelle de quartz. Et donc le quartz, c'est vraiment quelque chose qui existe à l'état naturel, et c'est un des composants qui est le plus naturel possible, puisqu'il n'y a strictement aucun traitement, à part la taille. Alors, la caractéristique du quartz, c'est que à l'intérieur, le courant est plus précisément le champ électrique va se propager très 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 lentement. Je rappelle, dans le vide, ça fait 300 000 km secondes, quand même, donc ça va très vite. Dans le quartz, la vitesse est extrêmement réduite, puisque ça ne va... Alors, c'est selon les axes, hein. C'est selon les axes dans lesquels le quartz va être coupé, mais dans le cas le plus classique, et il n'y a pas une grande différence hein, entre les différents axes, mais elle existe un petit peu, la vitesse de propagation du courant dans le quartz, c'est 5700 mètres par seconde. Donc ça va très 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 lentement. C'est comme un petit peu une ligne à retard. D'accord ? Donc c'est un petit peu... voilà, c'est ça qui est important. Ça fait 5700 mètres par seconde seulement. Donc c'est beaucoup beaucoup plus réduit que dans le vide ou dans l'air. Et du coup, eh bien, lorsqu'on a un courant qui arrive d'un côté de la lamelle, il va mettre un certain temps à passer de l'autre côté sur l'autre lamelle du condensateur à cette vitesse de 5700 mètres par seconde. Voilà. Et c'est ça qui fait que le quartz, enfin c'est ça qui fait que le quartz va résonner, enfin va générer ici des oscillateurs. Donc finalement, la fréquence du quartz va dépendre finalement de l'épaisseur, parce que plus le quartz, enfin, plus le quartz ici est mince, plus la fréquence est élevée, puisque plus vite le courant va sortir du quartz et arriver sur l'autre côté, sur la lame. Mais mécaniquement et industriellement, on n'arrive pas à faire, on arrive difficilement à faire des quartz qui vont au-delà de 20 mégas. C'est-à-dire que si vous trouvez un quartz qui fait, je dis n'importe quoi, 100 mégas, vous êtes certain que ce n'est pas l'épaisseur qui fait cette fréquence-là, c'est qu'en fait, on va utiliser d'autres propriétés, et notamment ce qu'on appelle des overtones. C'est-à-dire que on va faire en sorte, alors après, il y a des composants autour, hein, qui vont faire que il va y avoir périodes qui vont se passer à l'intérieur du quartz. Et bon, ils vont ressortir. Là, par exemple, si j'utilise un quartz de 100 mégas, je peux être quasi certain que c'est au moins un overtone 5. Donc il va fonctionner sur l'harmonique 5 de l'épaisseur de son cristal du quartz. Et donc les quartz, ils vont fonctionner grâce à un effet qu'on appelle l'effet piézoélectrique. On en a déjà parlé un petit peu quand on a parlé des micros et des haut-parleurs. L'effet piézoélectrique, c'est quoi ? Alors déjà, piézoélectrique, c'est que veut dire piézo ? Piézo, c'est pas le nom du mec. Hein. Ça vient du grec. Et piécène, en grec, ça veut dire appuyer. Et donc, en fait, c'est le fait d'appuyer sur le quartz qui fait que ça génère une charge électrique sur ses faces. Et inversement, si on lui applique une tension, il va gonfler. Ou au contraire, si c'est une tension négative, inverse, au contraire, il va se rétracter. D'accord ? Donc mécaniquement, déjà, le quartz, il bouge en fonction des tensions qu'on met à ses bornes. Donc il se dilate, il se contracte. Donc ça, c'est quand on met des tensions à ses bornes, et si on appuie dessus, au contraire, c'est là qu'il va générer des tensions, enfin, quand on appuie et quand on relâche, et du coup, il va remettre une tension inverse. Et donc, l'effet piézoélectrique, c'est la fameuse étincelle que vous voyez sur vos allume-gaz, là, puisque quand vous appuyez sur la petite molette, là, ça compresse un matériau piézoélectrique qui n'est pas du quartz, qui est un truc équivalent, qui a un effet piézoélectrique. Voilà. Le quartz est un matériau qui a un effet piézoélectrique. Mais ce qui va nous intéresser, nous, dans notre cas, c'est sa propriété aussi que le courant à l'intérieur du quartz circule très 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 lentement par rapport à du vide ou tout simplement dans un conducteur. Donc ça, les quartz. Je vous présente ma boîte à quartz. Alors ça, en fait, ce sont des canaux, des boîtes de canaux interchangeables. Alors où est-ce qu'elle est ma boîte? Voilà. Donc que j'ai récupéré ça lors d'une brocante radiophile. Hein, il y avait quelqu'un qui vendait ça. Je ne sais plus combien je l'ai acheté, mais enfin une misère. Mais c'est plus pour la beauté de la boîte et parce qu'elle est en bon état. Alors il manque des quartz, hein, comme vous voyez, parce qu'au départ, je pense qu'elle était complètement remplie. Et donc là, vous avez l'intégralité. Alors après, je ne sais pas, pour prendre la notice de l'appareil avec lequel c'était, pour lequel c'était fait, mais voilà, je pense qu'il y avait une table qui expliquait que le quartz 278, c'est pour faire marcher l'appareil sur telle fréquence. Voilà. Voilà, donc ça c'est ma belle boîte, et sur chaque quartz, on voit, il est marqué dessus, hein. Donc je me rapproche ici avec la webcam, et là en l'occurrence, c'est le FT243, donc c'est le modèle, hein, modèle FT243, et c'est pour le canal 280, et la fréquence du quartz, c'est 5925 kilocycles, donc kilohertz. Voilà, donc, et là, comme ça, il y en a plein. Alors, c'est à peu près lisible. Voilà, je peux en prendre un autre, vous allez voir, ça va être exactement le même. Voilà, FT243, donc c'est encore une fois la même. En fait, c'est FT quelque chose, là, c'est les dimensions, et notamment ici, la dimension ici entre les deux broches, ici. Et puis la dimension du quartz en lui-même. Et là, donc, c'était 6800 kHz. Voilà. Et donc, c'est le canal, ou je sais pas quoi, 315. Voilà. Donc, vous en avez ici. Et puis je vous ai trouvé aussi quelques quartz plus un peu plus récent que cela. Donc celui-là, je pense qu'il a été bricolé parce que vu l'état qu'il a, il était assez bricolé. Et tous ces petits quartz-là, la plupart du temps, ce sont des quartz qui vont être utilisés en informatique. Parce qu'évidemment, les processeurs, eux, ils ont besoin de cadencer. Les fréquences, c'est peut-être pas trop nos fréquences à nous. On a beaucoup, souvent, des 4 mégas. Et puis d'autres qui ont des fréquences un peu bizarres. Celui-là, 7 mégas 378. Celui-là aussi. Et celui-là, 6 mégas. Donc ça doit être typiquement un quartz informatique. Quand c'est une valeur ronde comme ça, la plupart du temps, c'est de l'informatique. Voilà, celui-là, je ne vois pas ce que c'est. C'est un quartz 27, ça. Voilà, 27-275. Alors, c'est peut-être pas encore la fréquence du quartz, hein, c'est peut-être juste la fréquence qui va permettre de générer du 27-275. Voilà. Et en plus, sur celui-là, il y a marqué la valeur du condensateur, donc 10 picofarads. C'est aussi une information intéressante, ça va vous permettre comme ça de construire votre oscillateur autour, connaissant la valeur du condensateur qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, alors là, je vais vous passer maintenant, pousser ça, et je vais vous faire l'autopsie d'un superbe quartz. Alors, je vais vous descendre un peu la webcam. Je pense que ça doit être bon. Ouais, c'est un peu... Ouais. Il y a un peu de reflet quand même. Hein. Il y a un peu de reflet. Je ne sais pas trop comment la mettre. Non, c'est pas bon non plus. Voilà, bon, en fait, faut que je mette ma main comme ça pour protéger mettre un peu d'ombre. Je sais pas. Voilà. Donc, sur 7 méga, de toute façon, quand on va l'ouvrir, ça ira mieux. Donc, ça fonctionne sur 7 méga 6. Vous voyez, ici, il y avait une vis que j'ai laissée, mais ici, il y a deux autres vis que j'ai retirées pour montrer comment c'est fait à l'intérieur. Évidemment, par rapport à mes quartz là, c'est nettement plus gros et donc comme ça on y voit nettement plus clair aussi. Alors comment c'est foutu à l'intérieur? Alors donc j'ouvre ma belle boîte. Bah tiens, il y a encore un quartz à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fout là lui? J'ai pas dit. Je vais le mettre de côté. Donc ce que j'ai à l'intérieur, je vais sortir tout ça. Là, on voit bien que l'on a à l'intérieur, il y a deux pattes. Hein, il y a une patte ici et une patte au fond. Cette patte devant, là, elle est reliée ici au bornier qui est là. Hein. Et la patte qui est au fond, elle est reliée à la borne qui est ici. Qui est ici. Voilà. Et à l'intérieur, comment c'est foutu? Donc, il y avait le ressort ici, mon ressort de compression, qui permet comme ça d'être certain que l'ensemble est bien comprimé, qu'il ne va pas bouger. Parce que le problème des quartz, c'est que dès qu'il y a un choc, bah, du coup, la fréquence, elle bouge. Puisque s'il y a un choc, il peut ne plus être exactement, tout au moins les deux plaques, ne vont plus être exactement positionnées à la même distance l'une de l'autre. Donc ça va faire bouger la fréquence, c'est un petit peu dommage. Et donc ce qui est en connexion avec mes deux pattes là, c'est une patte qui est ici, et la patte qui est ici. Donc là, j'ai deux plaques métalliques, et ici ça c'était une plaque isolant en bakélite qui est côté ressort, donc qui est comme ça. Et entre mes deux plaques, eh bien, j'ai ma lamelle de quartz. Donc là, j'ai un petit cadre qui permet de maintenir l'ensemble bien au milieu. Voilà, c'est un petit cadre. Et ma lamelle de quartz, la voilà. Donc ça, c'est un quartz. Donc vous voyez l'épaisseur. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. L'épaisseur, c'est pas très épais. Et ça, c'est déjà du 7 mégas. Donc, pour du 20 mégas, ça doit être, du coup, 3 fois plus mince. Donc, inutile de vous dire que 3 fois plus mince, après, c'est plus très solide. Tout au moins, ça peut casser facilement et c'est plus difficile à réaliser. Voilà, donc ça, c'est du 7 mégas. Et ça, ça doit faire, du coup, 1 millimètre. D'épaisseur, même pas un millimètre, non, ça doit faire, oh si, allez, un millimètre, allez. Enfin, à la limite, ça se calcule, puisqu'on sait que ça fait 5700 mètres par seconde, donc après, il suffit de regarder la fréquence, et donc on en déduit, on prend 5700 mètres, on divise par 7 mégas, et du coup, ben, on a l'épaisseur de mon quartz. Donc si je fais 5700 divisé par 7, et c'est des mètres secondes, donc il faut bien que je me mette en, en hertz, et je vais donc obtenir 10 puissance moins 4, donc voilà, c'est ça, c'est à peu près 1 mm, c'est un tout petit peu moins d'un millimètre. Donc un petit peu moins d'un millimètre, hein, 8 dixièmes de millimètre, pour du 7 mégas. Et encore une fois, si vous avez une lamelle qui fait donc 3 dixièmes, on va dire, 3 dixièmes de millimètre, elle oscille aux alentours de 20 mégas. Voilà. Et c'est vraiment le maximum qu'on puisse réaliser, puisque après, ben, ça va être un peu compliqué d'obtenir une lamelle de quartz de plus fine. Tout au moins, on a tous les risques qu'elle se casse, en fait. Et quand c'est cassé, ben, un quartz, ça marche plus. je reviens sur mon PDF. Voilà, donc nous avons fait notre autopsie de mon petit quartz. Et on voit maintenant les autres... on revient au cours plus théorique. Et on voit maintenant les schémas dits fonctionnels. Alors, attention, à l'examen, à part quelques quelques amplificateurs ou quelques montages que vous allez retrouver, en règle générale, les schémas fonctionnels, comme ceux-là, ne sont pas au programme de l'examen. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, j'ai jamais vu de questions pour reconnaître, par exemple, un oscillateur Colpitts ou Clapp ou Hartley. Voilà. Donc, ce sont des informations complémentaires. Voilà. Donc, ce sont les schémas de principe. Donc, par contre, vous allez voir le schéma de principe du PLL ou du DDS, mais vous n'allez pas avoir le schéma de principe des différents types d'oscillateurs comme je vous montre ici. Donc ça, ce sont des schémas classiques. Alors évidemment, je ne vous ai pas mis les valeurs des composants parce que ça va dépendre aussi de la fréquence que vous allez utiliser. Et puis aussi du transistor que vous allez utiliser. Mais voilà, donc ici je vous ai indiqué un schéma Colpitts, donc ça c'est quelque chose d'assez courant. Donc ici c'est un Colpitts à quartz, mais évidemment vous pouvez utiliser aussi un Colpitts à circuit LC, donc bobine condensateur. Ça c'est, on peut ou remplacer le condensateur par une varicap. Hein, donc tout cela sont interchangeables, hein, tous ces schémas-là sont interchangeables. Mais l'idée à chaque fois, c'est regarder quelle est la spécificité. Et donc la spécificité du Colpitts, là, c'est qu'en fait, on voit ici, il y a deux condensateurs, dont ce premier condensateur, là, qui réinjecte finalement une partie du signal en phase. Hein, donc je réinjecte ici une partie du signal, ici, sur mon émetteur, et donc je le réinjecte en phase. C'est ça le principe d'un oscillateur, c'est qu'en règle générale, on réinjecte en phase une partie du signal amplifié. Donc ici, j'ai une résistance, donc lorsque je vais avoir un courant variable dans mon émetteur, automatiquement cette intensité variable va me générer une tension variable aux bornes de ma résistance, et donc c'est cette tension qui va être réinjectée ici par la base, et ça va être fait en phase avec ici le quartz. Donc le générateur va fonctionner comme ça, ça va fonctionner une réinjection en phase, et le condensateur, là, ça permet d'accélérer le système, et ici, de faire en sorte que mon courant, là, soit stabilisé. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose qui fonctionne, qui a été mis au point il y a très longtemps, donc c'était tout au début de la radio, 1920 par là, et donc, évidemment, fait par M. Colpitz, tant qu'à faire, puisque les trois oscillateurs, là, ce sont les trois chercheurs, entre guillemets, qui ont déposé des brevets pour chacun de ces types d'oscillateurs. Et à chaque fois, c'est toujours la même idée, c'est de réinjecter en phase une partie du signal pour faire une auto-oscillation. C'est exactement ce que l'on cherchait à ne pas faire la semaine dernière avec nos amplificateurs, où on réinjectait en déphasage pour éviter les oscillations. Et là, en l'occurrence, c'est ce que l'on veut faire, donc en fait, on réinjecte en phase. Ça va être le même système ici avec mon système clap. Pour terminer mon système Colpitz, là, c'est qu'à la fin, je peux, mais encore une fois, je peux aussi utiliser d'autres... tous les circuits là sont interchangeables. Ce qui est particulier au Colpitz, là, ce sont mes deux condensateurs ici. Ça, c'est particulier au Colpitz. En revanche, pour le reste, tout est interchangeable. Ici, j'ai mis un circuit oscillant en sortie pour être certain que ma fréquence, vous allez voir tout à l'heure la manip de la soirée, c'est que j'ai utilisé non pas un quartz, mais un circuit LC, et que de ce fait, j'ai pas un superbe signal. Et du coup, je vais être obligé de filtrer pour ne récupérer que la fréquence que je veux générer, et pas les autres fréquences qui peuvent me poser problème par la suite. Donc je mets ici un circuit oscillant de la fréquence de mon circuit oscillant, de mon quartz, ou d'une fréquence qui va être une fréquence harmonique. C'est-à-dire que si ici je mets un quartz de, allez, 15 mégas, je peux ici mettre un circuit oscillant qui va résonner sur 45 mégas, donc multiplié par 3, et donc ici en sortie j'aurai bien du 45 mégas, et non pas du 15 mégas comme ma fréquence ici d'oscillation. Donc je vais utiliser une fonction multiplicateur de fréquence. Donc ça sera un oscillateur multiplicateur. Généralement c'est pas génial. Puisqu'on préfère utiliser un oscillateur suivi d'un multiplicateur, dont on va parler un peu plus loin. Ici, c'est mon système clap, et ici, je vais être... Alors, ça ressemble un petit peu à celui-là, parce que j'ai toujours ici mes deux condensateurs reliés à la masse, et donc ici, c'est avec un système ici de circuit oscillant LC, mais avec un condensateur ici à double cage, en fait, puisque là, mes deux condensateurs, ils sont reliés mécaniquement. Donc, concrètement, c'est un condensateur à double cage que je mets ici. Et le point de réinjection, c'est entre mes deux condensateurs. Ça ressemble, quand on déploie un peu, quand on remet le schéma un petit peu différemment, ça ressemble étrangement à mon Colpitz. Ça ressemble étrangement à mon Colpitz. La différence, c'est que là, ma sortie, là, je la récupère directement ici sur mon émetteur. Donc là, je suis plutôt collecteur commun. Et ici, j'ai un système d'alimentation. Donc ça ressemble, les deux se ressemblent. Le Hartley, c'est un peu particulier, puisque le Hartley, lui, le point milieu, il ne va pas être non pas sur les condensateurs, mais sur la bobine. Et donc là, je vais attaquer avec une impédance, parce que le problème, c'est que ici, je réinjecte, mais peut-être pas avec la bonne impédance, alors que lorsque j'utilise un Hartley, en fonction de la position ici sur la bobine, je vais pouvoir peaufiner ma réinjection avec l'impédance. Et là, pour mon Hartley, pour le besoin de mon Hartley, plutôt que d'utiliser ici un condensateur variable, je vais utiliser ici deux varicaps. Pourquoi deux varicaps? Parce que c'est plus, ça marche mieux. Tout au moins, ça fait plus de capacité. Et donc là, j'ai une tension variable. Donc je fais varier ma tension, et plus ma tension est négative, donc plus elle se rapproche ici de la masse, enfin du 0 volt, plus... alors attendez, non, c'est monté à l'envers, et donc c'est plus ma tension ici est positive, hein, mes diodes là, elles sont montées à l'envers, plus ma tension est positive, et plus la barrière de potentiel est large, et moins la capacité est petite, et plus la fréquence est grande. Hein? Donc finalement, la tension ici va être en relation avec la fréquence. Ça, c'est le truc tordu. Hein? Plus le condensateur est petit, plus la fréquence est grande. Et donc, par conséquence, pour le besoin de ma diode varicap, plus la tension va être positive, donc à l'envers, plus la fréquence, elle, va être élevée. Mais ce n'est pas complètement linéaire. N'oubliez pas que dans mon calcul de fréquence de résonance, j'ai une racine carrée. Hein, la fréquence de résonance de mon circuit, c'est 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Et donc, si j'ai ici un potentiomètre qui est linéaire, bah du coup, la fréquence générée ne va pas être linéaire. C'est-à-dire que lorsque je serai à mi-course, là, j'aurai seulement un quart de la fréquence. Voilà, donc vaut mieux que j'utilise ici, pour ce genre de potentiomètre, ici un potentiomètre logarithmique. Ça correspondra mieux à la variation de ma fréquence. Enfin, après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc, voilà le principe, donc le grand principe, c'est de réinjecter en phase une partie du signal amplifié sur l'entrée du circuit. Donc, l'entrée du circuit, toujours, c'est la base. Ici, la base et la base. Sur ce système clap, là, on a juste mis un condensateur de découplage bête et méchant. Sur le Hartley, on a été un peu plus méchant, puisqu'on a rajouté, en plus, une bobine de choc. Hein, les fameuses bobines d'étranglement qui évitent à la HF de remonter dans tous les autres étages d'alimentation de l'émetteur ou du récepteur. Voilà. Mais à chaque fois, donc ici, un condensateur de découplage, un condensateur de découplage. Ici, il n'y en a pas besoin, et c'est un peu embêtant, parce que là, j'ai rien du tout qui est filtré. Hein. Là, je mets directement sur le plus de l'alimentation, et voilà, c'est pas du tout filtré. C'est peut-être un petit défaut à corriger sur cet oscillateur. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas des questions qui sont à l'examen. Je vous ai mis ici les trombines, donc Colpitts, donc son brevet d'oscillateur, c'est 1920. Clapp, qui était radioamateur, lui, avec son indicatif W1BYX, et donc il a plutôt travaillé sur les oscillateurs contrôlés en température. Oui, j'ai oublié de vous dire, le quartz, il a un gros défaut, c'est que on le chauffe, lorsqu'il chauffe, donc en règle générale, c'est qu'à côté, il y a un transistor qui commence à chauffer, donc ça fait chauffer le quartz, et bien la fréquence du quartz, elle varie, puisque plus le quartz se chauffe, plus il gonfle. Et plus il gonfle, plus sa fréquence diminue. C'est un petit peu gênant. Et donc c'est pour ça que dans l'ancienne réglementation, avant 2012, on disait toujours qu'on mesurait la fréquence et la stabilité en fréquence d'un émetteur au bout d'une demi-heure de mise en chauffe pour être certain que l'ensemble du système, et notamment les oscillateurs, ne change plus de température. Et le problème des quartz, c'est que quand ils reviennent à température ambiante, eh bien, ils ne reviennent pas exactement, alors quand je dis exactement, au hertz près, à la fréquence sur laquelle ils sont démarrés au départ. C'est-à-dire qu'ils ont gonflé lorsqu'ils ont chauffé, mais lorsqu'ils reviennent à température, ils se dégonflent, mais pas complètement, complètement. Donc, au bout d'un moment, on peut avoir, comme ça, des variations de fréquence, parce que les quartz sont usés, entre guillemets. Donc il y a tout un système, après, qui permet de parce que j'en ai pas parlé, là, mais on peut, sur ces circuits-là, rajouter des condensateurs en série ou en parallèle sur le quartz pour ajuster sa valeur. Sans parler de changer la fréquence du quartz lui-même, puisque le quartz, alors ça c'est du bricolage dont on a parlé un peu avant le cours là, c'est-à-dire qu'on peut faire varier la fréquence du quartz tout simplement, alors déjà un, faut le démonter, qui n'est pas toujours gagné, dans ce que je vous ai présenté là ça va, dans des quartz un peu plus compliqués et même dans les quartz modernes qui sont ceux que je vous ai présentés dans les boîtiers métalliques, ceux-là, ils sont noyés dans de la résine, et je vous défie de sortir le quartz et de pouvoir modifier sa fréquence. Parce que vous allez tout péter et vous allez rien retrouver à la fin. Donc, si vous arrivez à récupérer la lamelle du quartz, vous pourriez la poncer pour, du coup, faire en sorte qu'elle soit moins épaisse et que donc la fréquence soit augmentée, ou au contraire mettre quelques produits chimiques dessus, alors du vernis à ongles, du mercurochrome, qu'est-ce que j'ai encore, différents produits chimiques comme ça, qui vont avoir du marqueur indélébile aussi. En fait, c'est tous ces produits-là qui vont faire en sorte que le quartz gonfle un peu. Et comme il gonfle un petit peu, eh bien, du coup, sa fréquence, elle diminue. Donc, on peut ajuster, mais vraiment pas beaucoup, hein, à la marge. Et le risque, c'est de ne pas faire soit un ponçage uniforme, homogène, ou au contraire, quand on met du mercurochrome ou tout ce qu'on veut, ou du marqueur indélébile, le risque c'est de ne pas avoir quelque chose d'homogène et que donc la surface du quartz elle est plus homogène et donc elle peut avoir différentes fréquences de résonance. Et là on est dans le caca le plus parce que du coup le quartz il va générer pas une fréquence mais tout un spectre de fréquences autour de la fréquence de sa fréquence de résonance. Ce qu'on voulait éviter, on a réussi à le faire. Parce qu'évidemment, une fois que vous avez généré toutes ces fréquences parasites, et eh bien pour les retirer, vous allez avoir un peu de mal. Voilà. Le dernier Hartley. Monsieur Clapp, on en était arrivé là. Il a travaillé sur les oscillateurs contrôlés en température, puisqu'on s'est aperçu assez vite que les quartz, ils avaient leurs limites. Monsieur Hartley, lui, il a travaillé sur les oscillateurs entre 1920 et 1936. Voilà, donc c'était vraiment tout le début de la radio où on commençait à faire des systèmes avec des oscillateurs. Donc tant en émission qu'en réception, évidemment. Les facteurs qui affecte la condition de stabilité des oscillateurs, on n'en a pas parlé, mais évidemment, le fait qu'on ait des tensions d'alimentation variables, ça va avoir une incidence sur l'oscillateur. Le quartz, il s'en fout un petit peu, mais c'est sur l'oscillateur. Et donc c'est pour ça qu'on va filtrer un maximum les tensions d'alimentation des oscillateurs, c'est que ces variations de tension, elles peuvent remonter dans les étages et aller générer des problèmes sur d'autres oscillateurs que vous pourriez avoir dans votre émetteur ou récepteur. Et donc, voilà, faire attention à ces tensions d'alimentation, faire en sorte que la tension d'alimentation soit la plus stable possible. Évidemment, des variations de température des composants, on a parlé des quartz à l'instant, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le transistor. Le transistor, quand il chauffe, son gain, il change. Et donc, on peut avoir quelques petits problèmes à ce niveau-là. Ce que j'ai aussi, on ne l'a pas évoqué, mais la tension d'alimentation, c'est très important, notamment quand on a des varicaps. Parce qu'évidemment, si on commence à faire varier la tension d'alimentation quand on a des oscillateurs qui sont commandés par des varicaps, on va au-devant des emmerdes. Parce que si la tension varie, la fréquence du coup de l'oscillateur va varier de la même manière. Donc attention à tous ces pièges un peu classiques. Et donc les oscillateurs, c'est quelque chose qu'il faut faire. Faut faire ça très prendre ça au sérieux et voilà. Et le dernier point important au niveau des oscillateurs, ce sont les défauts de blindage, c'est-à-dire que la plupart du temps, les oscillateurs, on les monte dans un boîtier métallique pour éviter tout problème. Par exemple, pour la bobine, faire en sorte qu'il n'y ait aucun champ magnétique qui vienne perturber le fonctionnement de la bobine et qui donc va perturber la fréquence de résonance du circuit, quand on a affaire à un circuit LC. Et donc, en règle générale, c'est ce qu'on appelle l'effet de main, c'est-à-dire le fait d'approcher la main d'un oscillateur fait varier sa fréquence. Alors peut-être pas beaucoup, mais si vous commencez par du 20 mégas et que vous avez une série de multiplicateurs pour arriver aux 1200 mégas, peut-être que vous allez avoir des variations importantes, et que si en 1200 en plus vous êtes en BLU, donc avec quelque chose dont la fréquence doit être très précise et très stable, eh bien, vous n'allez jamais y arriver. Donc voilà. Mais encore une fois, ce sont des notions qui ne sont pas à connaître pour l'examen. Ce qu'il faut connaître, ce sont ces facteurs ici affectant la stabilité. Mais une fois qu'on a bien compris ça, ça suffit. Il n'y a pas besoin de... c'est bien de le savoir, mais il n'y a pas de question à l'examen dessus. Les autres circuits, donc les circuits plus à commande électronique, là, donc ce sont les deux circuits, donc le PLL et le DDS. On va commencer par le PLL. Donc le principe de fonctionnement, et ça il y a des questions à l'examen, puisque ça c'est un synoptique. Et donc on va voir que dans les questions d'examen, autant on n'a pas de questions sur les schémas électriques, donc le schéma précis avec les condensateurs, les résistances, machin dans tous les sens, autant vous avez des questions sur les schémas de principe. Ça, c'est un schéma de principe, donc c'est un synoptique. Hein. Schéma de principe égale synoptique, c'est la même chose. Donc le principe du fonctionnement, c'est cela. Donc ici, vous avez un VCO, donc un oscillateur commandé en tension, donc avec une varicap. Ici, vous avez, alors delta, le petit truc bizarre devant, là, c'est un delta qui veut dire que ça varie. Donc ce qui varie, c'est la tension. La tension varie, et cette tension qui est variable, comme c'est un oscillateur avec une varicap, eh bien ça fait que ma fréquence, elle, va varier de la même manière. Et dans le même sens, c'est-à-dire que plus ma tension est importante, plus ma fréquence est importante. Donc ça, c'est mon oscillateur. Évidemment, c'est cette fréquence-là qui va me servir de sortie, hein, puisque c'est celle-là qui m'intéresse. mais je vais avoir un système derrière ce qu'on va appeler de l'asservissement. Hein. Donc c'est une boucle, hein, ça tourne, le système il tourne comme ça, hein, il y a des flèches, ça tourne. Alors à l'examen, les flèches, elles n'existent pas. Hein. C'est moi qui les ai rajoutées pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais à l'examen, évidemment, on ne vous met pas de flèche, on ne vous met pas dans quel sens il faut lire le truc. Ça serait trop simple. Et donc là, à la suite, donc on récupère une partie du signal de sortie de mon VCO pour l'envoyer ici sur un diviseur. Alors un diviseur, c'est un diviseur logique. Ça marche en fait comme un fréquence-mètre, mais à l'envers. Je m'explique. Ici, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Donc en fait, ça compte ici les impulsions. Donc ici, vous donnez comme instruction, ici, soit sur les roues codeuses. Alors j'en ai pas ici, j'en ai au Radio Club, dans ma boîte à pédagogique, mais je les ai pas prises, donc j'ai pas de roues codeuses, je peux pas vous les montrer. Mais voilà, donc c'est en fait des petites... c'était les anciens systèmes d'affichage de fréquences. Voilà. C'est du binaire, donc du logique, de l'affichage logique. Et donc ici, je mets ici sur mes petits, mes entrées, ici, en binaire, le nombre par lequel je veux diviser. C'est un nombre entier, évidemment. Donc ici, ce que je fais, je vais vous agrandir ça pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici, au départ, quand je suis en 1, j'envoie une impulsion en sortie, et après ça compte. Donc par exemple, si je veux diviser par 7, eh bien je compte 7 impulsions, et au bout de ma 7e, le compteur se remet à 0, il passe à 1, et comme il passe à 1, il envoie 7, il envoie un signal en sortie. Il envoie une impulsion en sortie. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, j'ai divisé par 7, mais si je veux changer de fréquence, il suffit que je divise par 8, ou par 9, ou par 6, ou par quelque chose de plus grand, et donc je peux comme ça faire varier finalement mes impulsions en sortie. Et à la suite, ici mes impulsions en sortie, je les envoie ici sur un étage que j'appelle ici un comparateur. Plus précisément un comparateur de phase. Alors je vous ai mis le schéma ici, qu'on verra plus précisément. Alors ça, je vire ça qui m'énerve. Eh oh, vire-toi. Voilà. C'est une porte. Non exclusif, c'est des circuits logiques, on peut utiliser d'autres circuits, c'est le circuit le plus simple à utiliser. Comment ça va fonctionner? Eh bien, je compare, ici, alors ici j'ai ma référence, qui est générée par un quartz, et lorsque la fréquence issue de mon diviseur est en phase avec la fréquence de mon quartz, tout va bien. J'ai ici une tension qui n'a pas bougé. En revanche, dès qu'elle est décalée, en plus ou en moins, quand c'est en plus, eh bien, je rajoute une tension. Quand c'est en moins, je la diminue. Voilà. Donc ça, c'est donc mon comparateur XOR qui me fait ça. Et derrière, je mets un filtre. Parce que sinon, si je ne mets pas de filtre, ça va me donner des à-coups, puisque ici, je suis quand même en numérique. Donc, c'est du 0 et du 1. Donc, c'est vrai ou c'est faux. Donc, c'est très violent. Et si je renvoie ce signal-là directement sur le VCO, le truc, il ne va jamais boucler. C'est-à-dire qu'il va toujours être en train de se de se remettre en phase. Donc la fréquence en sortie, elle ne va pas du tout être stable. Donc pour éviter ça, je mets un filtre passe-bas, donc un filtre RC tout simplement, ou LC, filtre passe-bas, avant ici d'attaquer le VCO. Et donc ce système-là, alors pour terminer ici, cette lettre bizarre là, ça veut dire, ça c'est la lettre phi, donc pour dire que c'est un comparateur de phase, hein, c'est la lettre F majuscule, phi, phi majuscule en grec, donc la lettre F, donc le phi, ça s'écrit P-H-I, c'est pour ça qu'on va l'utiliser pour phase, enfin, ça tombe bien, ça commence par les deux mêmes lettres, et donc voilà comment va fonctionner une boucle à verrouillage de phase. Donc c'est une boucle, on voit bien, et on verrouille ici par la phase, parce qu'on cherche à ce que le signal issu du diviseur soit strictement en phase avec mon signal de référence ici, qui est généré par un quartz. Voilà comment fonctionne ce système-là. Donc je vous ai rajouté quelques notions complémentaires, donc le diviseur logique, alors qu'on ne va pas voir non plus quand on parlera la semaine prochaine, quand on va parler des circuits numériques simples. Mais voilà, c'est quelque chose compréhensible. L'oscillateur de référence, ben voilà, c'est l'oscillateur de référence. Et évidemment, plus ce système-là est précis et stable, plus votre oscillateur va être précis et stable. Problème quand même des PLL, c'est que ici c'est un diviseur par un nombre entier, et que donc en fait ça génère non pas une fréquence mais des canaux. Puisque comme c'est un nombre entier, le nombre entier, les différences entre les canaux, ça va être finalement ici votre fréquence de référence. Donc il faut faire un calcul assez compliqué entre la fréquence de référence, le diviseur, et ça va vous donner comme ça le pas de chacun de vos canaux. Voilà, donc le PLL, c'est pas le système idéal, parce qu'encore une fois, ça va marcher par canaux et ça va pas générer une fréquence en continu comme pourrait le faire un circuit LC classique. Et le comparateur de phase, là, qu'on verra. Alors, on ne verra pas les comparateurs de phase avec la semaine prochaine quand on verra les circuits logiques, mais on verra la porte XOR. Et donc, ici, j'ai mon filtre passe-bas à la suite, donc un filtre RC passe-bas. Voilà, et voilà comment fonctionne un PLL. Et la plupart du temps, vous avez des composants qui intègrent tout. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur du circuit intégré, vous avez le VCO, vous avez le diviseur, vous avez l'oscillateur. Alors évidemment, le quartz, vous le mettez à côté. Il n'y a que le quartz finalement qui n'est pas intégré au circuit intégré. Mais à l'intérieur, vous avez le comparateur de phase. Le circuit RC, en règle générale, il est toujours aussi à l'extérieur parce que vous allez avoir besoin de modifier peut-être des valeurs R et C. Mais voilà, donc là, les trois quarts des composants, à part le circuit RC et le quartz, et peut-être un ou deux condensateurs dont on va avoir besoin à l'extérieur, voilà, mais tout va être finalement intégré, encapsulé dans le même circuit intégré. Et donc vous allez avoir quelque chose de... Et donc, vous allez avoir plein de pattes ici, en sortie, qui vont vous permettre, comme ça, de déterminer le nombre par lequel le diviseur va diviser. Autre système, c'est le DDS. Alors, on en parlera un peu plus la semaine prochaine, quand on va parler des circuits numériques et du traitement numérique du signal. Mais Voilà, sachez que déjà, on va commencer un petit peu à regarder comment ça fonctionne. C'est assez simple. Sur le principe, c'est très con. C'est un peu plus compliqué pour mettre en œuvre. Donc, premièrement, que veut dire DDS ? Ça veut dire Direct Digital Synthesis, qui veut dire synthèse numérique directe. Donc, en clair, à partir d'un quartz et d'un microprocesseur, eh bien, on va générer tout simplement la fréquence que l'on veut. Comment on fait ? Eh bien, donc, j'ai ici j'ai un microprocesseur avec un algorithme, donc un système de calcul, un petit Excel, quoi, pour faire simple. Mais bon, mais c'est pas Excel, c'est autre chose, et c'est des encore une fois, c'est un composant qui existe, qui est vendu tel que, et que vous avez juste finalement à mettre sur ces broches la fréquence que vous voulez générer, et ça se débrouille tout seul à l'intérieur. Encore une fois, ce que vous avez besoin comme composant externe, la plupart du temps, c'est le quartz. Le quartz de référence qui n'est pas inclus dans le circuit intégré qui est à l'extérieur. Donc vous avez votre quartz là, qui est la fréquence de référence de votre microprocesseur. Et votre microprocesseur, il va, en fonction de la fréquence que vous voulez générer, il va calculer que il faut que à chaque constante de temps en sortie, là, il va vous dire, il faut générer ces chiffres-là pour faire en sorte que vous ayez une pseudo-sinusoïde de la fréquence que vous avez souhaité générer. Donc là, par exemple, là, donc, il va générer ces fréquences-là. Il va les générer, enfin ces chiffres-là, il va les générer ici sur ces broches. Encore une fois, le microprocesseur et le convertisseur, c'est dans le même circuit intégré, donc vous voyez, c'est transparent pour vous. Mais vous pourriez imaginer avoir deux choses différentes. Hein. D'ailleurs, au départ, il y avait le microprocesseur et le convertisseur. Et derrière, donc, ce convertisseur numérique analogique, et donc ça transforme les valeurs qui sont présentes ici, donc en binaire, hein, ça les transforme ici en tension. Donc, ici, j'ai des chiffres, et mon convertisseur numérique analogique, donc qui s'appelle un CNA, hein, pour faire simple, ADC en anglais parce que non ACD en anglais parce que ils inversent tout. Donc mon convertisseur numérique analogique et donc là si j'ai 3 et ça va me donner une tension de 3 volts on va dire ou 3 millivolts ou 3 ce que vous voulez et puis après 2 c'est 2 volts ou 2 millivolts 1, 0, 0, etc. Donc vous avez comme ça un signal qui est pseudo. Pourquoi pseudo ? Parce qu'il n'est pas vraiment sinusoïdal. Hein. On voit bien, il y a plein de ce qu'on appelle du crénelage. Ce sont du crénelage. Et comme vous le savez, comme vous avez sûrement vous rappelé, M. Fourier, qui avait dit que tout signal périodique est la somme de signaux périodiques, de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples, et bien là, c'est ce genre de générateur, si on l'utilise directement, on court à la catastrophe, parce que non seulement on a évidemment la fréquence ici, généré, mais on a aussi toutes les harmoniques puisque on a des jolis signaux carrés. Donc c'est pas génial. Et donc pour à la suite sortir un signal digne de ce nom sinusoïdal, eh bien il faut utiliser des filtres passe-bas très méchants. Et la plupart du temps, il y a au moins un des filtres passe-bas qui est inclus dans le générateur. Et la plupart du temps, il en faut au moins un ou deux en plus à la suite. Donc, premier filtre passe-bas, on arrive à quelque chose d'un peu mieux. Et puis après, avec un deuxième filtre passe-bas, on arrive à un signal vraiment sinusoïdal. Voilà. Donc, le principe de fonctionnement, je n'ai pas vu de questions à l'examen. Hein. Autant j'ai vu des questions à l'examen sur le PLL, autant j'ai jamais vu de questions à l'examen sur le principe de fonctionnement du DDS. Mais encore une fois, le programme de l'examen va changer là au 7 juin, et peut-être qu'ils vont rajouter quelques questions, notamment sur le traitement numérique du signal, et ça, c'est typiquement quelque chose qui en fait partie. Rappel, donc les notions complémentaires, donc algorithme, on l'a vu, échantillonnage. L'échantillonnage, c'est chacun ici de ces petits, des nombres là, et donc la fréquence d'échantillonnage, bah, c'est le nombre de ces nombres qui ont été générés par seconde. Voilà, et donc la fréquence d'échantillonnage, ça détermine la... Évidemment, plus vous avez une fréquence d'échantillonnage importante, et plus ici vous avez... Alors ça s'appelle la quantification quand on est de manière... en termes de tension ici, c'est-à-dire que plus ici vous avez de chiffres possibles, plus la quantification est importante. D'accord ? Généralement, ça va toujours, c'est des puissances de 2, puisque c'est du binaire, et donc, voilà, là, souvent c'est 1024 ou 4096. Et d'autre part, donc ça c'est pour la quantification, et dans le sens ici du temps, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, c'est tous les, je sais pas quoi, toutes les microsecondes, et bien, crac, on envoie une valeur. Le processeur, il envoie une valeur. Il envoie une valeur au convertisseur. Donc ça, algorithme, échantillonnage. Le crénelage, ben, c'est le fait ici d'avoir des signaux carrés. Ça, c'est du crénelage qui pose des gros problèmes. Mais bon, il faut filtrer après. Hein. Donc ça, ce sont les informaticiens qui gèrent ça. Et derrière, ici, ce sont ce que j'appelle, moi, les analogiciens, donc ceux qui traitent le signal analogique, et donc filtre passe-bas. Parce que les informaticiens, filtre passe-bas, pour eux, ça ne veut rien dire. Voilà, donc il faut avoir les deux visions. Le théorème de Nyquist, on va revenir la semaine prochaine dessus. Le théorème de Nyquist, il dit quoi ? C'est que la fréquence maximum que peut générer ce type d'oscillateur, c'est quoi ? Eh bien, ça va dépendre ici de la fréquence de génération de mon échantillonnage. C'est-à-dire que il faut que j'ai une alternance positive et une alternance négative, au moins pour déterminer une sinusoïde, du coup, la fréquence maximum que pourra générer ici mon système, c'est la fréquence de référence divisée par 2. Hein, alors, le théorème de Nyquist, il dit précisément, un signal analogique doit être échantillonné à au moins 2 fois la plus haute fréquence le constituant si on veut le convertir en un signal numérique correspondant. Ça, c'est... Alors, Nyquist, lui, c'était un mathématicien. C'est-à-dire que jamais il a bossé sur des circuits numériques. 1927, ça n'existait pas. D'accord ? Donc c'est un mathématicien, mais dont les travaux ont été repris, évidemment, pour tout ce qui est traitement numérique du signal. Et Nyquist, on va en entendre parler encore une fois la semaine prochaine. Et on verra concrètement ce que ça veut dire. Donc ça, c'est valable pour l'émission. mais il y a le même problème en réception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine fréquence. Ça ne marche plus. Et donc, voilà, je le rappelle, toutes ces notions-là seront revues la semaine prochaine quand on parlera du chapitre 8, donc les circuits logiques et le traitement numérique du signal. Encore une fois, jusqu'à présent, j'ai jamais vu de question à l'examen là-dessus. Peut-être une question sur Nyquist, enfin qui n'était pas spécialement Nyquist, mais qui était un peu liée. Mais voilà, pour le moment, il y a très peu de questions et peut-être que ça va venir. Pas certain, mais peut-être. Multiplicateur de fréquences. Donc une fois qu'on a vu les oscillateurs et qu'on a vu que notamment nos quartz, ils vont pas au-delà de 20 mégas et qu'on a quand même des bandes qui vont au-delà de 20 mégas, bah, on va essayer de monter en fréquence pour atteindre ces bandes-là, évidemment. Et donc on va pour cela utiliser ce qu'on appelle des multiplicateurs de fréquences. Donc c'est quoi un multiplicateur de fréquences? Ben, c'est quelque chose qui, en entrée, on a une fréquence, et en sortie, on va avoir une harmonique de la fréquence d'entrée. Comment ça fonctionne? Eh ben, tout simplement, on va utiliser un amplificateur qui n'est pas linéaire et qui, du coup, me génère des harmoniques, c'est-à-dire quelque chose que l'on souhaitait ne pas avoir la semaine dernière. Donc on va faire en sorte de générer des harmoniques pour justement monter en fréquence. Alors, juste un truc, un multiplicateur de fréquences, d'où son nom, ça ne peut que multiplier des fréquences. On ne peut pas diviser de fréquences. On ne peut que monter en fréquence, puisque, encore une fois, ce sont des harmoniques. Ce ne sont pas des octaves, ce sont des harmoniques. Et en règle générale, on va utiliser un amplificateur en classe C. On a vu que le classe C, c'est un montage qui permet de générer beaucoup d'harmoniques, qui génère de très fortes distorsions harmoniques. Et bah, du coup, comme on sait que c'est un montage problématique, et ben on va l'utiliser pour multiplier des fréquences. Et donc, en règle générale, le multiplicateur de fréquences, il va multiplier des fréquences par 2, 3 ou 5 par étage. Évidemment, c'est un nombre entier. Pourquoi? C'est que ici, j'ai une entrée sur une fréquence, et ici, mon circuit oscillant, qui est ici, eh bien, il va être calculé pour résonner sur l'harmonique que j'aurais sélectionné. Donc si ici, par exemple, je veux ici du 25 mégas et que j'ai un quartz de 5 mégas, ici, avant, là, je mets mon oscillateur, je rentre ici avec mon 5 mégas à la sortie de mon oscillateur, et si j'ai ici un circuit oscillant qui résonne sur 25 mégas, eh bien, j'ai un multiplicateur par 5. 5 fois 5, 25. Donc, encore une fois, je ne peux multiplier que par un nombre entier, puisque ce sont des harmoniques. Donc, une harmonique, par définition, c'est un nombre entier. Et généralement, on ne va pas au-delà de l'harmonique 5, parce que après, c'est un petit peu délicat. Et que, voilà, donc, si on veut, par exemple, multiplier la fréquence par 9, eh ben, on va avoir deux multiplicateurs l'un derrière l'autre. 1, 2, 3, enfin, donc 9, on fait 3, puis 3. D'accord? Alors, ça, c'est... Donc, on est dans le schéma d'un oscillateur. On n'a pas encore parlé des modulations, mais si le signal est modulé au moment où on passe par le multiplicateur, et notamment si on est Alors déjà, quand on est en AM ou en BLU, on a vu la semaine dernière que un amplificateur en classe C, c'est absolument pas adapté à la modulation d'amplitude. Donc AM et BLU, c'est à proscrire. Donc pas de multiplicateur de fréquence en AM ou BLU, ça va pas marcher. Éventuellement, ça peut marcher en FM, puisque ce qui bouge en FM, ce n'est pas l'amplitude, mais c'est la fréquence. Et dans ce cas-là, donc, l'excursion, c'est-à-dire le fait que la fréquence bouge, puisque c'est le principe de la FM, eh bien, ça va bouger trois fois plus fort si on passe par un multiplicateur par 3. Ça semble bête et con, mais c'est logique. Et le signal reste démodulable, c'est-à-dire que bon, peut-être que votre démodulateur il va peut-être un peu souffrir parce qu'il va être aux bornes de sa capacité, parce que un démodulateur c'est fait pour fonctionner sur une largeur de bande définie, et si vous allez au-delà, ça marche moins bien. Alors peut-être que ça sera démodulé, mais que la modulation sera un petit peu moins propre que qu'elle ne l'aurait été si c'était pas passé par un multiplicateur. Mais voilà, en FM ça fonctionne à peu près, en AM ça ne marche pas du tout, puisqu'encore une fois l'AM ne fonctionne pas, enfin tout ce qui est modulation d'amplitude ça fonctionne pas en classe C. Donc ça, ce sont les multiplicateurs. Exemple, voilà, j'ai, et ça c'est une question d'examen, j'ai un oscillateur de 3,5 mégas, un multiplicateur par 2, et ici j'ai du 21 mégas. Qu'est-ce que je dois mettre ici pour obtenir mon 21 mégas? Et donc évidemment, si je multiplie par 2, ici ça me fait 7 mégas, que faut-il pour arriver à 21 mégas? Ben, c'est un multiplicateur par 3, tout simplement. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a dans les réponses proposées à l'examen, mais il y a pas mal de distracteurs. Hein, pour moi, les distracteurs, c'est des réponses complètement improbables. Voilà. Et la bonne réponse, évidemment, c'est le multiplicateur par 3. Bon, donc une fois que vous avez compris le multiplicateur, c'est pas compliqué. On va passer à un autre étage qui s'appelle le mélangeur. Et là, le mélangeur, encore une fois, c'est un amplificateur qui n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire et plus précisément, c'est un multiplicateur de tension. C'est-à-dire que ça va multiplier, hein, sur un mélangeur, il y a deux entrées. Hein, ici. Alors encore une fois, moi je vous ai mis des flèches. À l'examen, il n'y a pas de flèche. Il faut savoir, enfin il faut déduire où est l'entrée, où sont les entrées, où est la sortie. Voilà. Moi je vous ai mis les flèches, ça vous permet comme ça, et souvent d'ailleurs, les flèches, elles existent dans les schémas de principe qui sont fournis par les constructeurs, c'est quand même plus lisible. Hein. À l'examen, tant qu'à faire, encore une fois pour vous perturber, les flèches n'existent pas. Donc c'est à vous à essayer de définir dans quel sens vont les informations, en fait, les courants. Donc ici j'ai mes deux entrées, et donc mes deux entrées, les tensions de mes deux entrées sont multipliées pour obtenir ici mon signal de sortie. Hein, donc la croix qui est ici, c'est la croix de la multiplication des tensions. Hein, pour bien voir ça en tête. Donc je multiplie les tensions, et c'est le fait de multiplier des tensions qui nous permet de récupérer en sortie des mélanges de fréquences, donc des additions et des soustractions. Ça, c'est une opération mathématique. Alors, faut reprendre. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, il faut reprendre vos équations sur des sinus et des cosinus. Je ne vous le ferai pas le topo parce que c'est ce qu'on appelle les identités remarquables des sinus et des cosinus. C'est assez compliqué, mais voilà. Donc il faut bien se mettre en tête que c'est la multiplication des tensions, donc aux bornes de mon mélangeur, qui me crée, parce que mathématiquement c'est comme ça que ça marche, qui me crée un mélange à la sortie qui est, en fait il y a deux fréquences en sortie, il y a la somme, donc la somme des deux fréquences et la différence, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit. Puisque par définition, une fréquence ne peut pas être négative. Donc je prends la valeur absolue de l'écart entre les deux et donc je fais le plus grand divisé par le moins le plus petit. Donc ça, c'est très important. Et concrètement, voilà comment on fait, comment est constitué un mélangeur. Donc c'est avec un MOSFET double porte. Hein, je vous avais dit qu'il y avait une entrée qui permettait de régler le gain du transistor et le signal d'entrée. Et en fait, le signal, comme je vais faire varier le gain continuellement, du coup, je vais multiplier la tension d'entrée par un gain variable. Donc, je vais bien multiplier ici mes deux tensions. Hein, donc, ma tension d'oscillateur et ma tension HF quand on est dans le cadre d'un récepteur, par exemple, hétérodyne, super hétérodyne. Voilà. Bon, on en parlera quand on fera ça, les synoptiques, mais voilà. Donc c'est, et encore une fois, il n'y a pas de question à l'examen sur ce schéma de principe. C'est juste pour vous informer que ça existe. Et comme j'ai en sortie de fréquence, concrètement c'est quoi? Je vais avoir une fréquence, la différence, je vais avoir ici le mouvement général de mon signal, donc ici que j'ai tracé en bleu pointillé, et en rouge c'est l'addition de mes deux fréquences, et qui est donc une autre fréquence. Donc finalement, je vais avoir deux fréquences en sortie, et ce que je fais, tout simplement, eh ben, je filtre. C'est-à-dire que je prends un circuit LC, je l'accorde sur la fréquence, celle que je veux récupérer, ou tout au moins dans la bande que je veux récupérer, et je mets ici un circuit résonant sur cette fréquence. Évidemment, je récupère sur le secondaire ici de mon transfo, mon signal de sortie. Donc en fait, c'est ce circuit ici qui va me servir de filtre pour tout au moins, alors peut-être pas la fréquence, mais au moins la bande qui m'intéresse. Parce qu'après, je vais me débrouiller pour faire en sorte que ma fréquence ici de résonance ne soit pas une harmonique de ma fréquence de sortie. C'est-à-dire que je vais me débrouiller pour calculer ici mes deux fréquences à mélanger pour qu'elles ne viennent pas ici me foutre le cirque parce que ici j'ai une fréquence qui serait une fréquence harmonique. Hein, j'essaye de faire des trucs intelligents. Pas toujours facile, mais voilà. Alors, j'ai vu deux ou trois questions, mais vraiment sur l'ensemble de la base de données, donc c'est vraiment pas grand-chose, où on donnait les deux fréquences de sortie et où on me demandait la fréquence d'entrée, enfin les fréquences d'entrée. compte tenu justement des fréquences de sortie. Donc en fait, autant dans un sens c'est facile parce qu'il suffit de faire plus et moins, dans l'autre, enfin, HF, enfin, fréquence 1 plus fréquence 2 et fréquence 1 moins fréquence 2, ou 2 moins 1 selon le sens, quelle est la plus forte des deux valeurs. Donc ça c'est pour ma valeur en sortie. En revanche, pour calculer à l'envers, c'est-à-dire à partir de ma fréquence de sortie, de mes fréquences de sortie, quelles sont les fréquences que j'ai à l'entrée, là je vais utiliser autre chose, c'est-à-dire que je vais déterminer une première fréquence qui est l'écart entre mes deux fréquences, donc la fréquence maximum et la fréquence minimum, que je divise par deux, qui va me donner une première fréquence, et puis après je vais prendre la fréquence maximum de sortie de mon mélangeur moins la fréquence 1, et ça, ça va me donner la fréquence 2. Donc ça, c'est une méthode pour récupérer, enfin retrouver les fréquences qui sont présentes à l'entrée d'un mélangeur. Encore une fois, j'ai vu deux questions, donc si vous voulez faire l'impasse, il n'y a pas de problème, mais en même temps, elles sont assez faciles, enfin, assez logiques à retrouver. Et c'est vrai que le jour de l'examen, voilà, c'est peut-être le petit coup de stress qui va faire problème. Je vais vous présenter alors Excel pouf, pour vous montrer ce que j'ai fait sous Excel. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais mon métier, moi, c'est comptable, donc Excel, je connais et je maîtrise parfaitement. Donc moi, j'aime bien toujours, parce que le problème, c'est qu'à l'oscilloscope, on n'arrive pas à mettre ça en évidence. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de le montrer sous forme de calcul Excel. Donc là, j'ai pris, par exemple, du 5, enfin comme fréquence 5 et 9, mais j'aurais pu dire aussi 8 et 3, voilà, et ça donne autre chose. Hein. Donc 8, vous l'avez ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, 8, oui, c'est d'ailleurs même pas très bien positionné ce truc-là, mais enfin bon, peu importe. Ici, vous en avez 8, et ici, vous avez 1, 2, 3, encore mal positionné, parce que ça serait plutôt, alors ça se balade, voilà, c'est plutôt là que ça doit aller, pour faire un truc, pour faire un, encore un petit coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, donc c'est là que ça doit aller. On va y arriver. C'est beau Excel, hein. On arrive tout à faire tout avec ça. Et puis là, donc, 1, 2, 3, donc j'ai 3 périodes, et ici j'ai 8 périodes. Et quand on regarde ici, je vais donc obtenir par différence, alors je vais regarder ici les pointes que j'ai, donc ici ça c'est la multiplication point à point, donc je prends ce point-là, je le multiplie par ce point-là, et ça me donne ici le point-là. Hein, ici, vous avez ici tous les calculs que m'a fait Excel. Donc ici, ma première sinusoïde qui est calculée là, la deuxième sinusoïde qui est calculée là, et la multiplication ici qui est là. Hein, je vous montre ici la formule, rapidement, histoire de ne pas vous faire peur. Voilà, c'est ça, la formule. Mais en fait, alors c'est compliqué parce que ce que j'ai voulu faire là, si je ne fais rien, c'est-à-dire que si je ne mets pas de décalage, ici tout se retrouve au même niveau. Exemple, je vous mets tout au même niveau, vous allez voir, vous n'allez plus rien voir du tout. Alors, si ça veut bien, 0, pourquoi ça ne veut pas? Un 1, ah oui, il est resté sur une formule. 0. 0, annuler, 0 et 0. Et là, pourquoi il ne veut pas 0, 0 et 0. Voilà. Tout il est comme ça, tout est mélangé, et donc c'est absolument illisible. Et c'est pour ça que je les mets sur différents niveaux. Donc je fais machine arrière, machine arrière. Édition défaire, édition défaire, édition défaire. Voilà. Donc j'ai bien mes trois sinusoïdes qui ne sont pas mélangés, donc c'est quand même plus lisible. Et ici, lorsque je regarde ma formule, j'ai donc la tension ici de ma colonne B multipliée par la tension ici de ma colonne C, moins ici mes variables ici qui me permettent de ne pas les mettre les unes sur les autres. Voilà, donc c'est bien la multiplication de B multipliée par C. Tout le reste au-delà ne me sert pas à grand-chose, si ce n'est à repositionner ma courbe. Et donc ici, quand je regarde le nombre de pointes que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'en ai 11, et ça me donne donc 8 plus 3, 8 plus 3, 11, tout va bien, ça c'est ma fréquence supérieure. Pour ma fréquence inférieure, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que je trouve ici un mouvement où j'ai 5. Alors 5, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, et puis sûrement un là qui est un petit peu mal positionné, mais voilà, j'ai 5 vraiment grosses crêtes. Ok ? Et ces 5 grosses crêtes, donc c'est 8 moins 3. Et peut-être que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire 9 et 5, est peut-être un peu plus facile à visualiser, mais voilà. Alors ça, vous pouvez après bricoler autant que vous voulez, c'est pas grave. Alors, en fait, dans la vraie vie, on peut aussi utiliser une autre solution qui revient un petit peu au même, si on n'a pas un transistor MOSFET sous la main, mais qu'on a un simple jonction PNP normal, on peut quand même s'en sortir, c'est-à-dire qu'on va utiliser le transistor, mais pas dans sa plage de fonctionnement linéaire. On va utiliser dans une plage de fonctionnement où il a la forme d'une hyperbole, donc d'un signal, d'une fonction carrée. Et si je regarde ce que ça donne, donc là j'ai pris une formule qui n'est pas produit de sinus, mais qui est sinus 1 plus sinus 2 au carré. C'est-à-dire que je prends les mêmes, je fais ça, donc B plus C, et le tout au carré. Et ça va me donner ce système-là. Donc en entrée, j'ai toujours la même chose, mais en sortie, du coup, alors, c'est donc, ça ressemble un petit peu, alors c'est pas exactement pareil, évidemment, mais quand on regarde les pointes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alors ça c'est un... Il doit m'en manquer une parce que là-dedans j'ai pas dû compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ben si, pourtant là je suis bon. Il m'en manque une là. Bon, c'est peut-être moi qui me compte mal. Enfin, en tout cas, là je devrais en avoir 14 des pointes et régulièrement. Et d'autre part, je dois avoir 4 grandes pointes. Puisque 9 moins 5, 1, 2, ici une complète, 3 et 4. hein, parce que là, évidemment, elle va être considérée comme une et une seule, puisqu'on a deux pointes, et donc, quand on met un filtre bouchon, hein, il va résonner sur une fréquence qui va être de 4. Voilà. Alors, c'est pas aussi propre que ce signal-là, mais ça fonctionne quand même. Et c'est ça qui va être utilisé quand on... Voilà, c'est le mélangeur du pauvre, on va dire. Quand on n'a pas autre chose. Donc, l'explication mathématique de la chose. On va revenir sur le PDF. Le PDF, qui est là, qui veut venir, voilà. Donc, des exemples, alors qui ne sont, enfin, qui font partie des questions d'examen, les plus courantes sont quand même sur on donne des fréquences à l'entrée d'un mélangeur et on demande quelles sont les fréquences en sortie. Donc, si on a 5 et 8 mégas, encore d'autres exemples. Donc 5 plus 8, ça me fait 13. Et 5 moins 8, ou plus exactement 8 moins 5, hein, c'est-à-dire que je prends le plus petit moins le plus grand moins le plus petit, et ça me fait donc 3 mégas. Ou sinon, ça me fait moins 3 mégas, mais une fréquence négative, encore une fois, ça ne veut rien dire. Donc on prend la valeur absolue, et ça me donne donc 3 mégas. Et inversement, lorsque l'on donne les fréquences de sortie, donc en l'occurrence la 2 et 22 mégas, on demande des fréquences d'entrée, donc on fait l'écart que l'on a entre les deux, donc 22 moins 2, ça me fait 20, divisé par 2, ça me fait 10, donc 10 mégas est une des premières fréquences. La deuxième, je prends la fréquence la plus élevée, donc 22, moins 10, celle que je viens de calculer, une des fréquences, ça me donne donc 12. Et on vérifie par le calcul inverse que F2 plus F1, ça me fait bien 10 plus 12, 22. Et d'autre part, F2 moins F1, 12 moins 10 égale 2. Voilà. On peut se vérifier de cette manière-là. Et ça marche tout le temps. Lorsque le mélangeur n'est pas parfait, et notamment dans le cas où j'utilise ma fonction sinus A plus sinus B au carré. Là, du coup, mon mélangeur n'est pas parfait, puisque il ne multiplie pas exactement les tensions présentes à son entrée. C'est un truc, c'est pseudo. Puisque je rappelle, sinus A plus sinus B au carré, c'est sinus A au carré plus... puisque l'identité remarquable, c'est... Donc A plus B au carré est égal à A2 plus B2 plus 2AB. Donc A2 plus B2, on s'en fout un petit peu. Ce qui va nous intéresser, c'est le 2 fois AB. On a bien A multiplié par B dedans. Donc on a une partie quand même du signal où il y a une multiplication. Il n'y a pas que ça, mais il y a une partie du signal où il y a une multiplication. Et c'est ça qui va nous intéresser quand on va utiliser la deuxième possibilité, c'est-à-dire sinus F1 plus sinus F2 au carré. Problème, c'est que du coup, mon signal d'entrée n'est pas exactement multiplié par... les deux tensions de l'entrée ne sont pas exactement multipliées. Et donc, ça va me générer d'autres problèmes, et notamment des distorsions. On va se retrouver avec tous les problèmes de distorsion harmonique que l'on avait vu la semaine dernière lorsque mon amplificateur n'était pas linéaire. Et donc, lorsque ce mélangeur ne multiplie pas exactement ses tensions, Heureusement, on va au moins retrouver les mélanges classiques, qu'on appelle les mélanges du second ordre, qui nous posaient des problèmes la semaine dernière d'ailleurs. Mais cette semaine-là, c'est exactement ce que l'on veut, donc tout va bien. Donc on a bien F1 plus F2 et F1 moins F2, mais on va aussi avoir des harmoniques, c'est-à-dire 2 fois F1 et 2 fois F2, qui sont aussi des distorsions quadratiques, mais voilà. Et on va aussi avoir des combinaisons du troisième ordre, voire aussi du quatrième ordre. Enfin, plus on monte dans les ordres, moins ces distorsions sont importantes. Mais en fait, ce qui va surtout nous perturber, c'est les distorsions quadratiques, donc d'ordre 2. Donc, pour nous, c'est 2 fois la fréquence d'entrée F1 et 2 fois la fréquence d'entrée F2. Et d'autre part, les combinaisons d'ordre 3, comme 2 fois F1 plus F2 ou 2 fois F1 moins F2. Et donc ça, encore une fois, ce sont les distorsions cubiques. Et celles-là vont nous poser des problèmes. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous allez retrouver plein de fréquences derrière votre mélangeur, et peut-être que votre filtre que vous allez mettre en sortie va sélectionner une des fréquences que vous ne voudriez pas. Voilà, donc c'est un petit peu gênant, et ça va vous perturber pour la suite derrière des étages qu'il y a derrière le mélangeur. On a d'autres types de mélangeurs que ceux que je vous ai présentés avec le MOSFET. Ce sont des mélangeurs qu'on appelle équilibrés, et qui ont des caractéristiques un peu particulières, mais qu'on verra quand on verra la BLU, puisqu'ils sont utilisés essentiellement en BLU. Voilà, mais voilà, faut savoir que ça existe, et que voilà, c'est pas des mélangeurs tels que on les voit là et en sortie, on n'a pas exactement ces mélanges classiques. Et ils vont être utilisés essentiellement en BLU. Les graphiques, là, je vous les ai montrés, donc tout va bien. On passe à un autre slide. Et puis, voilà, donc on en arrive aux questions posées à l'examen. Et comme je vous disais, il y a quelques questions qui sont posées sur la boucle à verrouillage de phase, donc le PLL. Et là, alors évidemment, tant qu'à faire, ils ne les ont pas mis dans l'ordre où moi je les présentais. Donc c'est, hein, puisqu'ils ont mis le VCO ici, le diviseur ici. Donc en fait, la boucle, elle tourne bien dans le même sens, hein, filtre de boucle, etc. Alors quand on parle de filtre de boucle, en fait, c'est le filtre passe-bas. Et référence, là, on met pas, on n'a pas mis de quartz, mais c'est l'oscillateur de référence. Et on demande ici le nom de l'étage, et donc le nom de l'étage, c'est l'étage de comparateur de phase. Et cet ensemble, c'est vraiment une PLL, et en aucun cas, c'est un modulateur FM. Le modulateur FM, on le verra une autre fois, enfin, quand on fera justement les classes d'émission. Enfin, les différents types de modulation. Et donc là, et l'oscillateur à quartz, c'est ici l'étage qui s'appelle référence, qui est en fait un oscillateur à quartz. Un signal FM avec 4 kHz de bande passante passe par un multiplicateur par 2, qui est la largeur aura le signal en sortie du multiplicateur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme je passe par un multiplicateur, je multiplie tout, y compris la largeur de bande. En fait, je passe par une sorte j'ai pas d'explication, mais c'est assez assez intuitif de voir que la largeur de bande, du coup, elle double comme la fréquence. Et donc, ma largeur de bande, elle devient donc de 8 kHz. Alors, question bête sur un mélangeur. Qu'est-ce qu'un mélangeur ? Un oscillateur de fréquence, un additionneur-soustracteur de fréquence, un limiteur d'amplitude de signal ou un modulateur de fréquence. Évidemment, c'est additionneur, soustracteur de fréquence ou multiplicateur de tension, qui n'est pas proposé là, mais dans d'autres questions, c'est proposé. Fréquence intermédiaire en sortie, ça c'est encore une fois une question d'examen. Vous voyez qu'il n'y a pas ici de flèche pour dire dans quel sens ça va. Hein, donc, par contre, vous avez entrée, oscillateur local, fréquence intermédiaire en sortie. Donc, tous ces termes-là, on va les voir quand on parlera des récepteurs hétérodynes. Mais en fait, l'entrée, mes deux entrées sont ici et ma sortie est ici. Et donc, en sortie, j'ai 1 méga plus 650, ce qui me fait 1 méga 650. Ou la différence, c'est-à-dire 1 méga moins 350, moins 650, c'est-à-dire 350. Donc je peux avoir un 650 en réponse ou 350. Un 650 n'y est pas, 350 y est, ça tombe bien, et c'est là. Donc je coche 350. Un mélangeur peut-il générer des harmoniques ? C'est un petit peu... Ça problématique, hein. C'est-à-dire que si le générateur ne multiplie pas exactement les tensions présentes à ses entrées, on est certain d'avoir des harmoniques en sortie. Et donc ce sont des harmoniques paires et impaires, les deux, mon capitaine. Donc c'est oui, et pas restrictif aux harmoniques pair ou impair. Quelle est la fréquence issue d'un mélangeur du troisième ordre avec F1 égale 145 mégas et F2 égale 150 mégas? Donc, encore une fois, ça c'est quand on est en troisième ordre, donc on mélange trois fréquences, comme par exemple 2 fois F2 moins F1. Donc 2 fois F2, ça me fait 150, moins 145, ça me fait 155 mégas, et coup de chance, j'ai gagné du premier coup, mais j'aurais pu aussi commencer par l'inverse, c'est-à-dire 2 fois F1, 290, moins 150, ça me fait 140, 140 n'est pas une des réponses. Voilà. Donc, troisième ordre, donc c'est toujours multiplié... Enfin, je prends trois fréquences, donc ça peut être 3 fois F1, 3 fois F2, donc on ne voit pas là-dedans de réponse qui conviendrait. Mais ici, c'est 2 fois, donc c'est pas du troisième ordre, 290 et 300, ça c'est du deuxième ordre, c'est pas du troisième ordre. D'accord ? En fait, c'est les harmoniques 2. Et une harmonique 2 n'est pas du troisième ordre. Ce qui est du troisième ordre, c'est l'harmonique 3. Voilà, donc ça c'est du... C'est peut-être des questions un peu tordues, mais pour lesquelles on doit répondre assez facilement, il n'y a pas besoin de calcul, donc c'est quand même intéressant. Alors, je vous avais fait l'année dernière... Je vous avais présenté un oscillateur, un joli oscillateur que j'avais fait à partir d'un quartz et d'autre part d'un circuit LC série. Problème, c'est que j'ai essayé de le refaire marcher cette année. Impossible. J'ai essayé 3 soirs de suite de comprendre pourquoi ça marchait pas. J'ai repris le même schéma. Il y avait des belles photos là, donc voilà, je m'étais dit je vais y arriver. Et j'ai pas réussi, alors je sais pas ce qui merdoit, je sais pas si c'est la plaque d'essai, le transistor, j'en ai aucune idée. J'ai tout testé dans tous les sens, je ne suis jamais arrivé à faire démarrer l'oscillateur. et ça m'énerve un petit peu. Je vais vous présenter ce que j'avais, les copies d'écran que j'avais fait l'année dernière. Donc ça, c'est l'oscillateur que j'avais fait, donc à partir tout simplement d'un transistor NPN. Ici, alors pour cette représentation graphique là, ici c'était le circuit LC, c'était pas le quartz. Le quartz, c'est quand même avait une réaction un peu plus propre que mon circuit LC. Voilà. Donc ici j'avais mis une résistance de 680 ohms et j'avais mis ma sonde ici en sortie. Ça me générait une fréquence que j'affichais ici à l'oscilloscope, que je vais vous présenter un peu mieux. Donc l'oscilloscope, alors ça c'est mon deuxième oscilloscope qui a une fonction particulière qu'on va voir après. Donc l'image est un peu plus crade que l'oscilloscope numérique que j'ai par ailleurs, mais il y a une fonction qui est très intéressante, qui est une fonction de FFT, on va voir ce que c'est juste après. Ça ressemble un petit peu à de l'analyseur de spectre. Donc, avec mon circuit LC, je détermine, alors j'en avais profité ici pour déterminer la fréquence de résonance de mon quartz, tout simplement en déterminant ici la durée ici d'une période, on va y arriver. Donc ici, il y avait 5,4 divisions. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 20 nanosecondes par division. Donc je fais 5,4 multiplié par 20 nanosecondes. Ça me fait en tout 1080 nanosecondes ou 1,08 microsecondes. Et pour obtenir la fréquence, je divise 1 par 1,08 microsecondes et ça me donne ma fréquence. 9,259 mégas avec mon joli filtre. Alors où est-ce que je l'avais ? J'avais fait une photo. Voilà. Donc ça, c'était ici mon condensateur que vous avez déjà reconnu et ici la bobine que j'avais faite, une bobine un peu en l'air, que j'avais faite je vous l'avais présenté quand on avait fait les bobines. Voilà, et donc l'ensemble fonctionnait ici sur 9 mégas. J'étais très content de mon joli oscillateur. Problème quand même, c'est vraiment très sommaire hein, comme oscillateur. On voit quand même bien à la sinusoïde, à l'oscilloscope, que ma sinusoïde, elle n'est pas très belle. Ici, on voit bien que ça a un petit air penché quand même. D'accord ? Et ce petit air penché, eh bien, ça va me générer des problèmes. Et je vais voir quels sont les problèmes, justement, grâce à ma fonction ici qui s'appelle FFT. Donc, quand je clique ici sur mon écran de mon oscilloscope, que je demande donc l'analyse FFT, en fait, c'est une sorte d'analyseur de spectre. C'est-à-dire que ça va me... Alors, FFT, c'est quoi ? C'est une transformée de Fourier rapide. Donc, fast Fourier transformé. Donc, en clair, c'est une analyse... une analyse de Fourier, donc on verra, dont on parlera de ça la semaine prochaine, qui est assimilable à un analyseur de spectre. C'est un analyseur de spectre très très sommaire. Comment ça marche là ? Eh bien, ici j'ai, alors peut-être que vous ne le voyez pas très nettement, ici j'ai mes divisions, j'ai 10 dB ici par division. Donc là, voilà, regarde, c'est peut-être pas très, très, très lisible, mais bon. Et en ce qui concerne ici les divisions horizontales, on va y arriver. Ici, j'ai 6,25 MHz par division. Donc, ici, j'ai 6,25, hein, il est là. Et puis là, ici, j'ai 12,5 MHz. Et mon 9 MHz, bah, évidemment, il est compris entre les deux. Donc là, ça, c'est ma fréquence de résonance qui sert de référence, hein, qui sert à mon 0 dB. Et puis après, mon analyseur de spectre, il me dit, eh bien, pour l'harmonique 2, eh bien, l'harmonique 2, elle va être ici. Alors, je l'avais estimé, cette... à combien d'ailleurs ? Je ne sais même plus. Je l'avais estimé ici à 19 dB, parce qu'elle était légèrement au-dessus de ici de mon quadrillage, donc j'avais dit 19 dB. Et pour mon harmonique 3 ici, je suis à 26 dB. Et donc j'ai ici une atténuation, hein, de 19 dB par rapport à la fréquence ici d'oscillation, et ici de 26 dB. Pour les fréquences au-delà, ici je suis en dessous de 40 dB. Voilà, j'ai quelques pointes ici, 4 fois la fréquence, 5 fois la fréquence, et puis en règle générale, je suis à moins 60 dB. Je rappelle, le moins 60 dB, c'est donc la fameuse réjection ultime. Donc en dessous de 60 dB, on dit, voilà, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Ok ? Donc, voilà, 40 dB, voilà, il y a un petit chouille, mais pas grand-chose. Donc, ça veut dire que c'est ici, cette déformation ici, qui va me générer ces deux harmoniques automatiquement. Hein, c'est le fait que mon circuit ici est mal conçu. Hein, il est super simple, donc effectivement, il a toutes les chances d'être mal conçu. Et donc, ma sinusoïde, elle n'est pas parfaite. Et comme elle n'est pas parfaite, et ben elle va me générer toutes ces harmoniques ici. Et j'ai voulu aller plus loin, c'est-à-dire que j'ai cherché à voir avec, encore une fois, mon Excel, puisque je suis un fanat d'Excel, j'ai essayé de simuler ça à partir de mon fichier Excel. 19 dB, ça correspond à quoi, ça, en termes de tension, puisque là maintenant il faut que je traduise ça en tension pour mettre ça dans mon fichier Excel. Donc j'utilise là, donc je transforme mes décibels en rapport de tension. Et c'est pour ça que je ne divise pas par 10, hein, donc enfin, j'utilise la formule de transformation de mes décibels en rapport de tension. Donc j'utilise la formule en divisant par 20 pour les tensions et non pas par 10 pour la puissance. Donc ça me donne 10 puissance moins 0,95 et donc ça me donne 0,1122, soit 11,2% de taux de distorsion harmonique, en fait. C'est ça que je vais générer. Donc, dans mon fichier Excel, je vais mettre, pour ma fréquence 2, 11,2%. Pour ma fréquence 3, je fais le même raisonnement. Et j'arrive ici à 5%. Et lorsque je mets ici, donc, 11%, hein, 0,11 c'est 11%, et 0,5, 5%, et que je rajoute ici des déphasages particuliers, puisque malheureusement ils ne sont pas tous en phase, Et donc, si j'utilise ce déphasage ici de 90 degrés pour 2F et 108 degrés pour 3F, d'ailleurs qu'il faut que je traduise ces degrés en radians, donc il faut que je divise par 180 et que je multiplie par pi, hein, un peu compliqué, mais on y arrive avec Excel. D'ailleurs, j'ai mis ici la traduction ici des radians en degrés. On arrive bien ici à reconstituer ici la déformation qui a été introduite par mon circuit. Donc, et concrètement, en sortie de mon générateur, j'ai bien la fréquence F0 qui est là, j'ai l'harmonique 2F qui est en marron ici, et en vert, c'est l'harmonique 3. Donc finalement, j'ai ces trois fréquences-là qui sont superposées, et quand elles sont superposées, eh bien, elles donnent ici le signal déformé qui est à la sortie de mon oscillateur. Donc j'ai bien reconstitué la forme de mon signal. Voilà. Et donc la solution pour réduire ces harmoniques, parce que là c'est un truc super simple que j'ai fait, on peut pas faire plus simple. La solution pour réduire ces harmoniques, c'est tout simplement de mettre un filtre passe-bas à la sortie de mon oscillateur, et de ce fait, le filtre passe-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, premièrement, et c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que si la fréquence de coupure du filtre passe-bas, c'est la fréquence d'oscillation, il va commencer par m'atténuer la fréquence d'oscillation de 3 dB. Bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà. En revanche, ma fréquence, ma deuxième harmonique, ma 2F, si j'utilise un filtre LC, je vais donc avoir une atténuation à la première harmonique, donc à 2F, de 12 dB. 2 fois 6, puisque c'est 6 dB par octave et par élément actif. J'ai deux éléments actifs puisque j'ai une bobine à condensateur, donc j'ai 12 dB, donc mon moins 19 dB va se transformer en moins 31 dB. Pour 3F, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, ma formule d'atténuation de mon circuit passe-bas, c'est par octave. Et donc, l'harmonique 3 n'est pas une octave. Voilà, donc elle va être au moins de 12 dB, enfin, au moins comme 2F, mais sûrement plus. Elle va être comprise entre mes 12 dB et mes 24 dB qui seraient pour la quatrième, donc l'harmonique 4. Donc on va dire, pour faire simple, elle doit être autour de 18-19 dB. Donc de ce fait, en rajoutant juste une seule cellule LC, je vais diminuer ces deux harmoniques là qui me posent quand même problème. Et donc par calcul, le 6 dB par élément me donne donc 12 dB en tout, ce qui correspond à une diminution de ma tension d'un quart. Donc mes 11,2 qui sont là deviendraient 2,8%. Alors c'est faux puisque, encore une fois, c'est relatif et que mon signal F0, il est atténué de 3 dB, donc je perds 70% de tension. Donc c'est pas exactement 2,8, je vais plutôt me retrouver dans les 4%. Mais je suis passé donc de 11% à 4%, ce qui est quand même pas mal, et je n'ai utilisé qu'une seule cellule. Et donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, j'espère ne pas avoir perdu trop de monde. Et on arrive à la fin de cette séance. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye.